introduit à cette journée par la prière. Nous allons poursuivre notre route, notre itinéraire, dans la phrase de votre chapitre qui vous conduit à votre chapitre. Merci pour les belles fleurs, ça égaye la table. Donc après avoir entamé le premier mot qui est un verbe, marcher, et d'avoir entrepris cette route à la fois de l'exode, de l'exil, de l'aller, du retour, toutes ces marches dans la parole de Dieu, et voir combien elles étaient des expériences de la rencontre du Seigneur et surtout de la rencontre avec soi-même aussi. Ensemble, en Église, en peuple, selon le rêve, l'obsession de Dieu que de se donner un peuple et de nous voir avancer au cœur de ce peuple, non pas entre des gens choisis et des gens qui pensent la même chose, mais entre des frères, des sœurs, comme ils sont, comme ils nous sont donnés, selon le regard aussi que nous avons porté les uns sur les autres. Et nous arrivons aujourd'hui à « Dans l'amour ». Comme dit la chanson « Parlez-moi d'amour, dites-moi des choses tendres ». Je ne sais pas si je vais aller jusque-là. Mais au moins, je pense que j'ai mis la mélodie dans la tête de certaines parmi vous. Alors, on va entrer dans cette journée, donc toujours par la porte de l'Ancien Testament, comme tous les matins, avec l'hymne à l'amour, le cantique des cantiques, le miroir de nos amours. Les Écritures sont pleines de messages d'amour. Dieu ne se prive pas de signifier aux hommes, y compris aux pires d'entre eux, que malgré tout, son amour reste intact. Et cet amour est fidèle. Il ne se lasse pas. Parfois même, il faut l'intervention de l'homme pour que Dieu continue à aimer sans se décourager. Car cet amour est exigeant et réclame la réciproque. Or, comment aimer Dieu qu'on ne voit pas? Comment aimer l'autre jusqu'au bout, jusqu'à donner sa vie? Il faudra attendre la nouveauté de l'Évangile pour voir comment Dieu aime et ce qu'il attend de nous. Mais d'abord, entrons donc par la porte du Cantique des Cantiques, ce texte bien connu de l'Ancien Testament, le miroir de nos amours. Amour charnel, amour conjugal, amour mystique. De quel amour le cantique des cantiques parle-t-il? Faudrait-il privilégier une seule lecture plutôt qu'une autre? Pas si sûr. Alors de quel amour parle le cantique des cantiques? Cette question est débattue par les rabbins, par les pères de l'Église, par les exégètes, par les fidèles, peut-être par vous aussi, depuis des millénaires. Par conséquent, le moins que l'on puisse dire est que chacun a le droit de faire son propre usage de ce texte inspirant. Comme tout passage biblique, il est offert au lecteur comme un appel à être lu et interprété par lui, avec sa propre prière, sa pensée et sa propre vie. C'est ce que dit le psaume 40. Voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Petite parenthèse, quel que soit le passage de l'Écriture que nous lisons, il est toujours écrit pour vous. Et ce donc, ce qui implique que cette lecture pour soi nécessite une interprétation qui lui est propre à soi. Il n'y a pas une seule interprétation de la parole de Dieu qui serait figée et valable pour tous, à toutes les périodes, à toutes les époques et selon toutes les situations. La parole de Dieu rencontre l'humanité de chacun. La parole de Dieu est interprétable et interprétée par chacun, comme il est, au stade de sa vie, à la période qu'est la sienne. Et quand on parle d'amour avec le livre du Cantique des Cantiques, eh bien, On va ouvrir les portes toutes grandes en fonction des interprétations que les uns et les autres, les unes et les autres pourront donner. Et encore, il n'en sera question là que d'une. Vous aussi, vous avez votre mot à dire dans cette histoire d'amour. C'est particulièrement vrai du Cantique des Cantiques. Il est à prendre comme écrit pour nous, comme une lettre d'amour qui nous est adressée. Premier point, le Cantique des Cantiques est un chant d'amour. Mais est-ce le chant d'amour humaine, selon une lecture au premier degré? Ou est-ce le chant d'amour spirituel entre Dieu et l'humain, selon une lecture au sens figuré? Et dans ce cas, est-ce le chant d'amour entre Dieu et son peuple, ou entre Dieu et l'humanité? Ou entre Dieu et la personne humaine individuelle, ou encore entre le Christ et l'Église. Faudrait-il nécessairement choisir une interprétation en écartant les autres? Bien des textes dans la Bible invitent à une lecture plurielle. Par exemple, quand Jésus commente lui-même une de ses propres paraboles en disant d'abord « Je suis la porte » pour en tirer du sens, puis en disant ensuite, je suis le bon berger, en donnant un autre sens. C'est le chapitre 10 de Jean que vous connaissez bien. Ailleurs, l'apôtre Paul commente l'histoire de Moïse en disant, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction. Première lettre aux Corinthiens. Son opinion est donc que l'histoire de l'exode du peuple hébreu a un double sens littéral, à la fois historique et symbolique. Cela peut donc être aussi le cas pour notre lecture du Cantique des Cantiques. Deux amoureux. Ce texte a un sens important quand il est lu au premier degré, comme parlant de l'amour de deux personnes qui s'aiment profondément, qui se cherchent, qui chantent les louanges de l'autre, qui font l'amour, qui se perdent, qui se retrouvent, qui se demandent pardon. Encore une fois, avec ce texte, la Bible parle vraiment de nous. Ce qui est important et qui a troublé bien des moralistes, c'est qu'il n'est pas question ici de mariage, ni de fécondité biologique. Comme quoi, hein, Dieu est plus grand que nos catégories. Ce ne peut pas être un oubli. L'amour de deux personnes qui s'aiment à sa valeur propre, nous dit ainsi le texte. Cela ne veut pas dire que le mariage est inutile, mais que ce n'est pas ultimement important. Cela ne veut pas dire que faire un enfant n'est pas magnifique, n'est pas un projet extraordinaire, mais ce texte nous dit que ce n'est pas indispensable pour légitimer l'amour des amoureux et leur union le plus intime, y compris dans sa dimension charnelle. Elle est une dimension importante de l'union de deux amoureux. Le Cantique des Cantiques évoque même l'usage de la mandragore et du parfum du nard qui était censé réveiller le désir de la puissance sexuelle. Méditer ce texte comme parlant de l'amour de deux amoureux est ainsi un baume qui soigne notre conscience parfois injustement culpabilisée par des millénaires de discours moralisateurs, faisant de l'amour charnel quelque chose de suspect, voire de dévalorisant pour la vie humaine. Cette façon de voir est étrangère à la pensée biblique, qui considère en général que la bénédiction de Dieu embrasse, c'est le cas de le dire, toutes les dimensions de notre personne, y compris celle du corps, celle des sens. Le Cantique des Cantiques est un appel à s'émerveiller de connaître la bénédiction qu'est la vie en un couple qui s'aime. Ce texte est un miroir dans lequel nous pouvons nous regarder et espérer évoluer positivement dans notre façon de vivre, d'aimer et d'espérer. La méditation de ce chant peut nous inspirer aussi de la compassion pour les personnes si nombreuses qui regrettent de n'avoir jamais connu un véritable amour, ou qui l'ont perdu, ou qui vivent des difficultés. Alors me direz-vous, et nous, les religieux, Qu'est-ce que ce texte peut nous dire, si on parle d'amour charnel a priori auquel nous avons renoncé, de couple d'amoureux a priori auquel nous avons renoncé? Tout cela est vrai. Évidemment, nous les religieux, nous ne sommes peut-être pas, et même sans doute pas, directement impliqués par ce texte-là, dans ce qu'il révèle. Et pourtant, la parole de Dieu est pour tous. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez arracher les pages de votre Bible du Cantique des Cantiques en disant c'est pas pour moi? C'est pour nous. C'est pour nous aussi. Et ce texte a vocation à guérir nos relations d'amour. Parce que qui que nous soyons, même si vous, mesdames, vous n'avez pas d'homme à aimer et moi, je n'ai pas de dame à aimer, parce que nous l'avons choisi, parce que, en tout cas, c'est notre vie. Il y a malgré tout de l'amour à donner, de l'amour à vivre, de l'amour à sublimer, de l'amour à trouver et une histoire d'amour à construire. Nous n'avons pas renoncé à aimer. Si vous avez renoncé à aimer, oulala, à quoi bon vivre? Mais aimer autrement. Mais cela suppose quand même de s'interroger sur l'amour et la manière d'aimer. Il y a un truc terrible, en fait, dans toute l'éducation que nous avons pu recevoir les uns les unes les autres, c'est que personne ne nous a appris à aimer. Personne ne nous a appris à aimer. Et on n'a appris à personne à aimer. Et c'est très difficile de dire aimer, c'est ça. Aimer, c'est ça. Je vais t'expliquer ce que c'est qu'aimer, comme je vais t'expliquer que 1 plus 1, ça fait 2. Ben non. Personne ne sait exactement ce que ça veut dire. Et si on s'interrogeait les uns les autres, peut-être que nous mettrions des définitions plus ou moins différentes derrière cette expression d'aimer. Qu'est-ce que c'est aimer? Est-ce que c'est respecter? Être respecté? Confiance? Faire confiance? Qu'est-ce que c'est aimer? Dites-vous que tous les couples n'ont pas appris à aimer. Savent pas ce que c'est. Certains croient qu'ils aiment ou qu'ils sont aimés et c'est pas tout à fait exact. C'est pas moi qui vais révéler, là, dans une retraite de quelques minutes, ce que c'est qu'être aimé. Si toute l'humanité n'a pas été en capacité de l'enseigner à sa descendance, qu'est-ce que c'est? Ressentir un frisson? Ressentir la présence? Passer des heures devant sa glace avant le premier rendez-vous pour se faire joli, mettre un peu de parfum, qu'est-ce que c'est aimer? Durer, malgré la trahison, malgré la difficulté, continuer à faire confiance, même si tout semble dire le contraire, qu'est-ce que c'est aimer? Alors le mot, ce qui est paradoxal, c'est que ce mot d'amour et cette expression d'amour, nous les cathos, on l'a à la bouche, mais alors tout le temps. Il faut s'aimer, aimez-vous, aimez-vous. Ce qui est vrai. Mais honnêtement, est-ce qu'on sait le faire? Est-ce que c'est être gentil avec sa voisine? Oui, bon, ben ça ne demande pas grand-chose. Enfin, ça peut être compliqué, mais c'est pas ça forcément aimer. Qu'est-ce que c'est aimer? Et alors maintenant, qu'est-ce que c'est qu'aimer le Seigneur? Aimer le bon Dieu. Donner toute sa vie pour lui. Ça, c'est a priori notre route et notre chemin de religieux et de religieuse. Donner toute notre vie à Dieu par amour. Est-ce que c'est aussi pur que cela? Est-ce que c'est aussi vrai que cela? Est-ce que finalement, c'est pas plus arrangeant d'aimer le bon Dieu? Comme ça nous évite d'aimer quelqu'un en particulier. Et puis, ça nous permet d'être une fuite, parfois, de la réalité. Qu'est-ce que ça veut dire qu'aimer? Pas aussi simple que ça, que de répondre. Alors, on va tourner la question et apprendre de Dieu ce qu'est l'amour. La lecture au sens figuré du texte du Cantique des Cantiques est d'une très grande richesse dans le domaine de la foi. Une multitude de passages obscurs au premier degré prennent du sens quand ils sont lus comme parlant de l'amour entre Dieu et nous. Le Cantique des Cantiques est lu ainsi depuis des millénaires. Et ce langage symbolique était si familier dans les milieux des lecteurs de la Bible qu'il ne leur posait aucun problème de compréhension. Nous en avons les traces dans le Nouveau Testament où ces méthodes d'interprétation sont utilisées, en particulier par Jésus dans ses citations de la Bible et les explications de ses propres paroles et gestes. Il n'y a pas d'autre façon de parler de Dieu que d'utiliser un langage figuré, car Dieu dépasse tout ce que l'on peut dire et même imaginer. Et d'avoir utilisé les catégories de l'amour qui nous échappent tellement, mais après lesquelles nous courons tous, avons tous envie d'être aimés et d'aimer, et en même temps on ne sait pas ce que c'est, ben ça rappelle quelque chose de notre relation à Dieu. On a tous envie d'être en relation, en intimité avec lui, et en même temps on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. On entend les appels du Christ à aimer Dieu, s'aimer soi-même, aimer les autres. Mais est-ce qu'on y arrive? Combien de fois j'entends, et moi le premier, hein, en confession, je me déteste, je n'arrive pas à m'aimer, je n'arrive pas à me faire confiance, je n'arriverai jamais à me pardonner de ce que j'ai pu faire, dire. Je ne mérite pas l'amour de Dieu, je ne mérite pas l'amour des autres. Ça, c'est des trucs qui nous sont rentrés dans la tête. Mais alors vraiment, c'est bien vissé. Hein. Et ça tient. Hein. Et ça tient longtemps. Pourquoi donc sommes-nous si résistants à l'amour, résistants contre? Pourquoi donc sommes-nous si imperméables à ce don que le Seigneur veut nous faire? C'est étonnant quand même. Pour parler de la relation que Dieu cherche à établir avec les humains, nous avons souvent dans la Bible l'image d'un roi avec son peuple. Cette image dit un Dieu qui a droit de vie et de mort sur ses sujets, selon son bon vouloir, appelant à la soumission et à la reconnaissance selon ce qu'il nous réserve. Nous avons souvent cette image du roi dans notre tête, cette image d'un Dieu peut-être pas aussi bon que ça, puisque nous n'arrivons pas à répondre à son amour inconditionnel. Vous savez, cette expression qui nous trotte dans la tête quand on parle de miséricorde. Oui, Dieu est miséricordieux, mais, il est justice. Comme pour corriger la miséricorde qui serait de trop, qui aurait une limite, qui nous ressemblerait tellement. Oui, je veux bien t'aimer, mais enfin quand même, t'exagères. Ça s'appelle de l'humanité. La miséricorde de Dieu sans limite. Oui, mais quand même, il y a la justice. Et oui, mais la justice de Dieu, c'est la miséricorde. Justement. Justement. Être juste comme Dieu, c'est faire miséricorde. On l'entendra dans l'évangile tout à l'heure, ce soir, si vous n'avez pas déjà lu. Et nous, on entend justice comme étant une limite à poser à cette miséricorde. Elle est infinie, mais quand même, on va y mettre une limite. Dingue. Mais c'est comme ça qu'on fonctionne, hélas. Donc oui, Dieu, un roi, mais peut-être qu'il ne me veut pas tant de bien que ça. Qui n'a pas entendu ou qui peut-être n'a pas dit cette phrase terrible, le bon Dieu t'a puni? Qui ne l'a pas entendu au moins une fois dans sa vie? C'est le bon Dieu qui t'a puni. Ah ben mince, ah ben on va finir par le croire. Parce que finalement, ça nous ressemble. Nous, on punit les autres. Oui, ça, oui. Et puis parfois, on est même des passeurs de cette terrible phrase quand un enfant nous agace, quand on ne sait plus comment faire pour, entre guillemets, le tenir. Attention, hein, le bon Dieu va te punir, il voit tout. Qui n'a pas été élevé comme ça? Pour avoir la paix et faire peur aux gens et craindre toute sa vie finalement que Dieu finalement nous regarde un petit peu comme l'espèce d'œil de Caïn là qui est sur nous et qui nous observe et qui nous attend au détour. Égare à toi, si tu fais un péché, tu iras droit en enfer. Et l'image de Dieu s'éloigne de nous et notre capacité d'aimer s'évanouit. Nous avons parfois aussi la belle image d'un Dieu qui est le berger des brebis que nous sommes. Cette théologie met en valeur l'accompagnement individuel et bienveillant de Dieu pour chacun de nous, afin de nous guider, de nous nourrir, nous soigner, nous protéger. Nous avons aussi l'image du Dieu Père, appelant à grandir à son image et à le respecter. Nous avons peut-être l'image d'un Dieu Mère, plein de tendresse, nous allaitant de ses seins, comme le dit le livre d'Isaïe. Je te consolerai comme une mère console son enfant. Je graverai ton nom sur la paume de mes mains. Le Cantique des Cantiques évoque Dieu sous la figure d'un amoureux de la jeune fille que nous sommes, même moi. Cette image est présente dans bien des livres de la Bible hébraïque et dans le Nouveau Testament. C'est une des plus belles façons de parler de Dieu, de sa grâce et de sa foi. Dieu est amoureux de nous, et cela explique qu'il nous veuille le plus grand bien possible, en toutes circonstances. Pour nous, il pardonne tout, il supporte tout, il endure tout, il espère tout, comme le dira saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 13. Des images corrigées. Dernier point. Le Cantique des Cantiques va décliner de plusieurs façons cette théologie d'un Dieu amoureux de nous, reprenant les images classiques pour les transformer. Si Dieu est un roi, il n'est alors que le roi jugeant ses sujets du haut de son trône, mais un roi amoureux. Et nous sommes la fille élue parmi toutes qu'il désire prendre dans ses bras et rendre heureuse. Si Dieu est un berger, nous ne sommes plus un simple mouton pour lui, mais une bergère qu'il aime et avec qui il fait équipe dans ce service. Par cet amour, la distance semble s'effacer entre Dieu et nous dans une tendre intimité. Le Cantique des Cantiques garde ainsi le meilleur des théologies anciennes du Dieu roi et du Dieu berger. Mais avec l'amour, il transforme la conception que nous pouvons avoir de Dieu. Nous y reconnaissons alors un parfum d'évangile. C'est donc à juste titre que le Cantique des Cantiques est considéré par la tradition juive comme le livre dit saint des saints. En le comparant ainsi à cet espace du temple de Salomon qui représente la présence de Dieu au cœur de son peuple. Le Cantique des Cantiques nous invite à faire l'expérience mystique de la présence de Dieu en nous et au milieu de nous par son amour. Un amour qui est dit dès les premiers versets et qui rend possible une repentance qui ne vient qu'ensuite, d'abord l'amour. Une passion de Dieu qui nous donne envie de l'aimer en retour, comme le dit Jésus, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes les forces de notre corps et avec intelligence. Une tendre et amoureuse passion, une intimité, une complicité quotidienne. Ce livre du Cantique des Cantiques est véritablement une école de l'amour et de l'amour selon la proposition du Seigneur et dans le bon ordre. D'abord l'amour. Alors oui, nous sommes tous cabossés. Nous sommes tous cabossés par un amour qui a été blessé. Tout le monde. Et nous avons tous besoin soit de très très grands travaux en fonction de nos histoires, soit peut-être un peu moindres, mais en tout cas on a tous besoin d'être au moins rafistolés, voire réparés sur nos capacités d'aimer. À ne plus se sentir mis en danger quand nous aimons. À ne plus mettre de réserve cette fameuse « oui, je veux bien t'aimer, mais la miséricorde, mais la justice. » Et la justice, c'est une justice comptable. T'as été gentil, tu mérites. Tu n'as pas été gentil, tu es puni. Ça, c'est tellement nous, ça. Mais c'est tellement pas Dieu. Il y a besoin de corriger beaucoup de choses dans nos existences. Et ce n'est pas parce qu'on a quelques cheveux blancs sur la tête que le travail est terminé. Il nous faut beaucoup de temps pour réentendre cette proposition d'amour que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous, y croire et en vivre. Alors, phrase ou du moins moment d'interrogation plutôt, je vous donnais tous les jours, je vous donne tous les jours quelques petites interrogations, quelques petites questions pour nous aider à relire notre histoire en fonction du thème que nous évoquons. Aujourd'hui, ça va être un petit peu différent. On va relire et réentendre le texte de Pierre et de Jésus au bord du lac avec cette triple question qui lui est adressée. Et cette triple question, je vous propose de prendre du temps pour vous et de l'entendre pour vous. Pierre, m'aimes-tu va devenir votre prénom à placer. Laissez résonner cette question trois fois, comme pour Pierre, en réentendant les trois niveaux de l'amour que Jésus met en valeur dans cette question. Vous connaissez ça par cœur. On va relire ce texte, je vais vous le distribuer. Je vais en faire un petit commentaire et je vais vous laisser avec cette question. Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci? Il lui répond, oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. Jésus lui dit, sois le berger de mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? Il lui répond, oui, Seigneur, tu le sais, je t'aime. Jésus lui dit, sois le pasteur de mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, m'aimes-tu? Il lui répond, Seigneur, toi, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. Jésus lui dit, sois le berger de mes brebis. Évidemment, vous connaissez les différents degrés d'amour dans le grec, mais je vais quand même vous le relire pour le réentendre avec ces différents degrés d'amour. Parce que de ce texte, qui est sans doute l'un des textes les plus remarquables du Nouveau Testament, un des textes les plus puissants du Nouveau Testament, qui se passe entre deux hommes, on pourrait presque penser que c'est une histoire d'amour, qui se passe en tout cas entre Dieu et son disciple, eh bien, a été souvent, par certains en tout cas, dénaturé. On a dit, vous voyez, là Jésus, en fait, eh bien, il rappelle bien à Pierre qu'il l'a renié trois fois. Hein. On prend les trois. Vous pensez vraiment que Jésus est de ce genre-là? Comment est-ce qu'on a pu dire des conneries comme ça? Comment est-ce qu'on a pu penser que Jésus, jouant avec l'amour, jouant avec l'intimité d'une personne, avec tout ce qu'il peut donner, joue en lui disant, je vais bien lui poser trois fois la question, comme ça va bien lui rappeler que trois fois il m'a renié. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut être tordu pour dire que Dieu est comme cela? Quelle catastrophe cela a pu faire, alors que le texte dit absolument pas ça. Je vais vous le relire avec les différents degrés d'amour. Mon vieux Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes d'un amour total? Un amour total, un amour vrai, un amour que je veux avoir avec toi. Un amour qui n'a pas de limite. Un amour où tu es libre, où je suis libre. Un amour infini. Est-ce que tu m'aimes comme ça? Ben, Seigneur, tu sais, je t'aime déjà d'amitié. Je t'aime en amitié. C'est tout ce que je peux te donner pour l'instant. C'est pas grave, mon vieux Simon. Occupe-toi de mes agneaux, des plus petits, de ceux qui arrivent, des nouveaux du peuple, de ceux qui me rejoignent là seulement, maintenant. Occupe-toi-en, même si t'es pas aussi bien que peut-être tu pourrais l'être dans cet amour avec moi. Au moins, ça fait rien. Occupe-toi déjà des petits. Je te fais confiance. Mais mon vieux Simon, t'es sûr que tu ne m'aimes pas d'un amour aussi grand que ça? D'un amour aussi infini que ça? D'un amour total, d'un amour qui te rendrait libre de celui que tu espères tant? Ah Seigneur, je peux t'aimer que d'un amour d'amitié. Vraiment, je peux pas aller plus loin, je peux avoir que cette relation avec toi. Bon, c'est pas grave, mon vieux Simon. Occupe-toi des brebis. Tu t'es occupé des agneaux, des petits, de ces brebis, occupe-toi de tout mon peuple aussi. De celles qui vont donner la vie. De celles, de ce peuple qui, même si t'es pas à la hauteur, eh bien, occupe-t'en quand même, sois présent auprès de lui. Des nouveaux comme des anciens. Des agneaux comme des brebis. Bon alors, mon vieux Simon, c'est d'amitié que tu m'aimes alors. On n'ira pas au-delà pour l'instant. Tu peux pas encore me suivre plus loin? Bah oui. Bah oui, Seigneur, je peux pas faire plus pour l'instant. Je peux pas faire plus. Mais au moins je t'aime comme ça. Eh bien, très bien, mon vieux Simon. Sois le berger de mes brebis, accompagne ces brebis, non seulement occupe-t'en, mais sois les bergers, guide-les. Et alors, j'ai coupé le texte à cet endroit-là, mais si vous lisez la suite, même vous l'avez tous en tête, eh bien, nous sommes à la fin de l'évangile, nous sommes à la toute fin de l'histoire, nous avons tout traversé, les miracles, les enseignements, la passion, la résurrection. Et Jésus va dire à Pierre, maintenant, suis-moi. Premier mot qu'il lui avait dit dans les premiers versets de l'évangile, ce sont aussi les derniers mots de l'évangile, maintenant, suis-moi. Dans la perspective de votre chapitre, vous n'êtes pas à la hauteur de l'amour que Dieu veut pour vous, comme institution de sœur du calvaire et comme à titre personnel. Pas vous personnellement, hein. Moi aussi, tout le monde, toute l'Église. Mais ce n'est pas grave, le Seigneur nous confie quand même la charge de son peuple. Le Seigneur vous confie d'accompagner les brebis comme les agneaux. Le Seigneur vous confie de prendre soin de ceux dont déjà vous prenez soin et de continuer à le faire avec cette invitation comme la première invitation que vous avez eue un jour au moment de votre appel, ce moment peut-être qui est en mémoire, que vous avez en mémoire, où vous avez dit, OK, je veux devenir religieuse. D'accord? C'était peut-être il y a 60 ans, 30 ans, peut-être plus que ça. Et puis, cette réponse, elle a connu des va-et-vient, des retours et des reculs, des moments de joie et des moments de pluie, des moments sous le soleil et des moments sous les orages. Eh bien, réentendez, pour la congrégation, comme pour vous-même, maintenant, suis-moi, parce que l'amour du Seigneur, lui, est d'une même authenticité, comme au départ, il n'a pas changé. Il vous rafistole, il vous répare, il vous régénère dans cet amour où nous avons tous besoin d'être reconstruits. À nous de dire oui, ou de dire non. Mais dépassons si possible cette étonnante résistance que nous avons tous à résister à l'amour, en se disant c'est pas pour moi. Même ce que l'on peut donner, même si nous ne sommes pas, comme à cette triple question de Jésus, au moins la double question du départ d'un amour infini et sans limite, l'amour agapé, même si nous ne pouvons être que dans la filia, cet amour finalement d'amitié, eh bien au moins, vivons-le pleinement. Le Seigneur nous en tient par rigueur. Il nous reconstruit et nous invite à le suivre et le suivre encore pour qu'il rafistole, répare et redonne la dynamique de notre cœur peut-être blessé. Et c'est pas un mal, c'est juste qu'on nous a pas appris à aimer. On court après l'amour, on le désire, on le souhaite. Et qui nous a appris? Personne. Alors lui nous apprendra à le faire en le suivant au plus près. Je vous souhaite une bonne matinée avec cette question, peut-être un geste, puisque on a pris l'habitude entre nos jambes, entre le regard. Je vous invite à poser simplement la main sur votre cœur et à l'écouter battre, à l'entendre battre, en vous disant que vous êtes vraiment aimable, chacune, et en capacité d'aimer aussi ceux qui sont autour de vous. Maladroitement, comme vous pouvez, pas toujours à la hauteur, peut-être même que certaines n'y croient plus. Mais pourtant, c'est l'invitation qui nous est faite aujourd'hui. Vous avez un cœur qui bat? Vous avez un cœur.